J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scope, votre rendez-vous radiophonique hebdomadaire pour parler de cinéma sur Radio Campus ou la fréquence 92.1. Je m'appelle Victoria et aujourd'hui nous ne sommes que deux, mais ne vous inquiétez pas car je suis en bonne compagnie, en la personne de Martin. Salut Martin.
Coucou coucou.
Qui s'occupera de la technique mais aussi d'alimenter avec moi des débats autour de deux films actuellement en salle et qui divisent pas mal chacun à leur manière. Le premier nous parle de militantisme écologique sous la forme de fourrure, d'écailles, d'ailes et de pattes en tout genre. Et le deuxième nous raconte librement l'histoire d'un jeune pongiste, et oui ce mot existe, qui nous donne une leçon d'estime de soi et qui voit les choses en grand, en très grand, voire même en trop grand. Vous l'aurez compris, voire même vu si vous nous suivez sur Instagram, aujourd'hui on parle du dernier né des Pixar, Jumpers, et également de Marty Supreme réalisé par Josh Safdie. Nous parlerons donc de deux films actuellement en salle, nous les avons choisis spécifiquement pour leur faculté à susciter bon nombre de débats cinéphiliques, mais aussi idéologiques, on le verra après, mais ils ne sont évidemment pas les deux seuls films à être projetés au cinéma ces temps-ci. Martin, est-ce que tu as repéré d'autres films joués dans les salles obscures cette semaine ?
Mais absolument, il y a du lourd, du très très lourd, un peu partout dans les salles. Le premier dont je voulais parler, c'était The Mastermind, que vous pouvez encore avoir. Il est sorti il y a quelques... Alors, je vais dire quelques semaines, on a l'impression que c'était il y a longtemps, sauf que, bon, ça va, normalement, il est encore en salle, de Kelly Reichardt, avec Josh O'Connor, le si beau Josh O'Connor que vous avez déjà vu dans Challengers, en ce moment dans History of Sound également, qui est sympa, vous pouvez aussi aller le voir, une jolie histoire d'amour avec Paul Mescal. Et The Mastermind, ça va assez bien suivre ce qu'il promet, qui est être l'anti-film de braquage. C'est Josh O'Connor va faire un cambrioleur, enfin il va orchestrer un cambriolage d'art dans son musée local, et ça va être tout sauf le cambriolage stylé qu'on voit toujours à la Mission Impossible, et on va presque plus passer de temps, enfin on va voir beaucoup la galère en fait, on va pas seulement voir l'organisation et le cambriolage en lui-même, on va voir toute la galère dans sa vie autour, et c'est très calme et c'est surtout très très drôle d'avoir une musique très jazz, bah, très cambriolage, assure un mec qui se prend les pieds dans le tapis toutes les 5 minutes. C'est vraiment un dispositif que j'aime beaucoup, mais c'est un film très contemplatif, je tiens à dire. Donc si vous aimez ce style, c'est vraiment le style de la réalisatrice Kelly Reichardt. Je vous encourage à aller le voir. Il y a Urchin que j'ai découvert à Cannes personnellement et qui a été un vrai petit coup de cœur pour moi.
Il a l'air super cool.
C'est un film anglais qui va suivre un jeune homme en grosse galère aussi, mais qui est sans domicile fixe, qui vit un peu de petits larcins et qu'on va voir qui est profondément imparfait, qui fait plein de choses pas bien. Mais on va le voir dans sa galère alors qu'il essaie d'en sortir, il est poursuivi par ses démons. Et c'est un film réalisé par Harris Dickinson, qui est un acteur que vous avez déjà vu dans Sans Filtre. La Palme d'Or d'il y a trois ans, le temps passe vite, et qui joue en ce moment John Lennon dans le biopic des Beatles. Et après, un autre film que j'ai pas vu malheureusement, mais que j'ai tellement hâte de voir, c'est No Other Choice de Park Chan-wook, que je pense que Park Chan-wook n'a plus besoin de se prouver comme un grand réalisateur, un monsieur à qui on peut faire confiance. Je pense que c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Victoria.
Non, j'ai une très grande férue de cinéma sud-coréen et particulièrement de Park Chan-wook. Amène à lui et j'ai trop envie de voir ce film et je bave devant depuis 3 mois, donc j'ai trop hâte d'aller le voir en salle en fait.
Donc voilà, Park Chan-wook, c'est le monsieur qui a fait Old Boy j'allais dire Parasite, mais non, ça c'est Bong Joon-ho. Il a aussi fait Decision to Live plus récemment, qui est son dernier, qui est un vrai chef-d'œuvre également. Et là, No Other Choice, ça va être un remake, si je dis pas de bêtises, à un autre film. En tout cas, ça prend une prémisse qui a déjà été vue, qui est un homme en galère qui vient de perdre son travail et qui fait un entretien pour avoir un nouveau travail et subvenir à sa famille. Et sa manière pour être sûr d'avoir le boulot, parce que sinon c'est un peu la mort, c'est de tuer les autres candidats à l'entretien. Et donc il va essayer d'assassiner chaque autre prétendant et rivaux à ce travail. Donc c'est un réalisateur qu'on est tous ravis, comme d'habitude, de revoir. Sur le grand écran, et je crois même qu'il va être président du jury au prochain festival de Cannes.
Exactement, ce qui est très stylé d'ailleurs.
Donc voilà, il y a du très beau monde en salle en ce moment, et moi par contre celui qui n'est pas encore sorti mais qui me fait de l'œil profondément, que j'attends depuis très longtemps, c'est Project Hail Mary, ou Projet Dernière Chance dans son titre francophone, qui est le nouveau film de Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de La Grande Aventure Lego, de 21 Jump Street, qui ont aussi été producteurs sur la saga Spider-Verse, sur Les Mitchells contre les Machines, et donc du coup des films d'animation de Sony Pictures. et qui là arrive dans une adaptation de roman de science-fiction qui se passe dans l'espace, un peu à la Interstellar comme ça, c'est un peu apocalypse, la dernière chance c'est envoyer un vaisseau dans l'espace, et à son bord c'est Ryan Gosling, et c'est des réalisateurs qui je pense sont parmi mes préférés dans le cinéma hollywoodien actuel, actif, et même dans le cinéma tout court, que, pour lesquels j'ai beaucoup beaucoup d'affection, dont j'adore la plume, j'adore le ton, qui arrive à aborder des sujets avec vraiment beaucoup de finesse et de sincérité, tout en étant vraiment hilarant. J'adore leur humour, et là, la bande-annonce a déjà montré que le film va avoir son quota de bidonnade, de rigolade. Donc c'est un film que j'ai très hâte de voir, je crois qu'il y a déjà des premières avant-premières ce week-end, et je vais essayer de les découvrir, parce que c'est vraiment le film qui me fait l'œil ce mois-ci, et sinon tout ce début d'année.
Allez, bah je note, écoute. Il y a aussi Pillion de Harry Lytton qui a l'air super cool, j'ai toujours pas eu le temps de le rattraper, avec Alexander Skarsgård et Harry Melting, je pense, il s'appelle.
Je ne saurais pas dire son nom, mais on l'a déjà vu dans Harry Potter, vu qu'il faisait le cousin pas très gentil Dudley.
Oui, pas très gentil, effectivement.
Et là, il va un peu recevoir la monnaie de sa pièce, quoi.
Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il a aussi joué dans un film très indé et un peu queer-coded aussi, parce qu'on aime beaucoup les films queer-coded ici, qui s'appelle Please Baby Please. Si vous avez l'occasion de passer dessus, c'est une expérience à part entière. Voilà, je vous en lis pas plus, mais c'est très stylé. En salle, on a également Testament d'Anne Lee.
T'as pas donné le pitch de Pillion. Pillion, ça parle
Pillion. Ça parle apparemment d'un flic de quartier qui se fait un peu marcher dessus dans son travail, qui va rencontrer un biker un peu stéréotypé, BG, etc. Et ils vont entretenir une relation assez particulière.
BDSM. On va le dire. Et il va être littéralement son soumis. Et,
oui, complètement, oui.
Voilà. Mais il est en quête d'amour, comme ça, c'est un personnage très sensible.
Ouais, ça a l'air touchant, premier degré. Enfin, j'ai envie d'aller voir ça. Il y a aussi Testament d'Anne Lee, réalisé par Mona Fastvold, film musical et biographique mené par Amanda Seyfried, racontant l'histoire de la fondatrice d'une secte au XVIIIe siècle appelée les Shakers, qui prêchait l'égalité entre les gens et la justice sociale. Voilà, ce qui a l'air vraiment très cool. Donc, si vous aimez les films musicaux, allez-y, ça dure 2 heures, mais honnêtement, il me donne envie. Il y a aussi, du côté de la France, Le crime du troisième étage, réalisé par Rémi Besançon, qui avait fait Le premier jour du reste de ta vie, l'autre vie, qui était très chouette, avec Pio Marmaille. Et ici, c'est avec Gilles Lelouch, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne.
Notre amour, Guillaume Gallienne.
Oui. Du très beau linge. Et là, ça va revisiter à la française le fameux trope de fenêtre sur cour. Donc, le voisin en face, il est un peu chelou. Il n'y a pas une histoire de meurtre en secret. Là, c'est un peu flippant d'être appelé la police, non ? Voilà. Si ce genre de trope vous intéresse, allez-y. Il y a aussi Les Cadors de et avec Jérémy Ferrari, Laura Felpin et Eric Judor, qui a l'air pas mal. C'est pas trop mon style de cinéma en général, mais bon, voilà.
Je suis pas très familier aussi, mais c'est sûrement une très bonne comédie.
Je dis jamais non à Eric Judor en général, donc je pense que ça va être un peu ce qui va m'amener à voir ce film. Il y a aussi Bride de Maggie Gyllenhaal avec Jesse Buckley et Christian Bale, qui reprend encore une fois la fameuse histoire de la fiancée de Frankenstein. En gros, Frankenstein, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Donc...
On a fait une émission spéciale il y a quelques semaines, quelques mois.
Effectivement, oui, et le saviez-vous, il n'y a pas que Frankenstein, il y a aussi la fiancée de Frankenstein, donc en gros... Frankenstein, ils sont un peu tout seuls et en fait, ils vont peut-être...
Le monstre ou le docteur ?
Les deux, non, le monstre. Et donc le docteur va lui créer littéralement une autre femme, pas forcément par des voies très légales, mais
des voies aussi légales que celles qui ont fait le monstre de base, quoi.
Oui, voilà.
Et c'est, je crois, la première fois qu'on l'a vu, c'était à la suite du film Frankenstein de l'époque, culte, et où donc ce personnage féminin a été créé qui... porter autant de problématiques que le personnage original avec pourquoi est-ce que j'existe, et en plus là ça posait en plus plein de problématiques féministes où en fait elle a été créée littéralement pour un homme, et donc quels sont les tenants et aboutissants d'émancipation avec cette origine un peu particulière. Et là alors il y a un autre film, Frankenstein, qui est sorti il y a quelques mois, mais là ce n'est pas du tout lié. En plus The Bride, je crois, ça se passe pas à la même époque, enfin de toute façon il n'y a pas les mêmes acteurs, et c'est très différent. On est beaucoup plus proche du coup Bonnie and Clyde, on a vu des séquences un peu de braquage, cambriolage, où on a littéralement le Frankenstein et la fiancée de Frankenstein qui braquent des banques, donc un style très différent de celui que vous avez pu voir sur Netflix, donc pas à croire que on va revoir le même film, il n'y a plus d'originalité, non, c'est bien différent, et pas besoin d'avoir vu le film Netflix pour avoir vu ces deux films complètement différents et pas du tout liés.
Tout à fait. Et là, écrit au féminin en plus. Donc,
oui, réalisé par une femme, Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jake Gyllenhaal.
Ouais, qui récemment a fait The Lost d'auteur, que j'ai toujours pas vu, mais on m'a dit qu'il était pas mal. Mais voilà. Et si vous n'avez pas trop regardé des films dans les salles normales, bah, y a aussi, si vous êtes féru des festivals de cinéma, aujourd'hui inaugure le festival Offscreen. Si vous ne connaissez pas ce festival, c'est un festival annuel donc, qui à chaque fois propose des films indépendants, ici dans le cadre de salles bruxelloises comme le cinéma Ritix et le cinéma Aventure et le cinéma Nova. Et la Cinémathèque, donc que des bons cinémas indés que j'aime bien bruxellois. Et à chaque fois, donc, ils mettent à l'honneur de nouveaux films indés et très what the fuck folkloriques. Et ils mettent aussi en avant des rétrospectives de cinéastes et de films zarbi des années 70, voire plus anciens ou plus modernes. Par exemple, l'année dernière, je me souviens qu'ils avaient passé The Wicker Man de Robert Wiseman, qui est banger d'ailleurs. Si vous avez aimé Midsommar, bah c'est sans The Wicker Man, il n'y aurait peut-être pas eu de Midsommar.
Voilà. Midsommar est un peu un hommage à The Wicker Man à plein de niveaux.
Même si c'est pas les mêmes films, mais ça c'est un autre débat. Mais cette année, quand même, il y a une très belle rétrospective. John Woo, qui est un très grand cinéaste hongkongais d'action. Si vous aimez les films d'action, jetez-vous sur la filmographie de John Woo. Il y a de quoi boire et manger pour tout le monde, je crois.
Je crois qu'il y a vraiment tous ces gros films qui passent. Je crois que j'ai couvert, il y a The Killer, il y a Hard Boiled, donc il s'appelle À toute épreuve en français, je crois.
Ouais, je pense que c'est ça.
Il y en a un troisième, je saurais plus lequel. C'est toi qui as le programme sous les yeux.
Oui.
Mais voilà, c'est John Woo, c'est un réalisateur qui est vraiment à découvrir, surtout si vous aimez le cinéma d'action, surtout en fait si vous aimez le cinéma d'action et hongkongais, vous ne pouvez pas passer à côté de John Woo. C'est je vais pas faire de parallèle que je vais regretter après, mais voilà, c'est vraiment considéré comme un grand artiste. Pour dire, il y avait même À toute épreuve qui passait en Cannes Classics cette année.
Ah ouais.
Une séance qui apparemment s'est très bien passée. J'y étais pas, mais j'ai eu des retours comme quoi vraiment ça criait dans la salle, ça kiffait sa mère. ça a bien kiffé, ça a bien crié, ça a bien apprécié. Et donc voilà, c'est un film très kiffant qu'on vous encourage à voir, surtout là sur grand écran. Ça arrive pas tous les matins.
Tout à fait. Donc ça, c'était pour les films qui sortaient actuellement. Et on va rebondir sur le nouveau Pixar qui s'appelle Jumpers ou Uppers en VO. J'avais envie de te poser une question, Martin. À ton avis, d'après toi, est-ce que c'est une plantade ou une vraie surprise, Jumpers ?
Je vais pas être aussi extrême de dire qu'il va être dans l'une de ces deux catégories, mais j'ai un peu envie de dire que de mon côté, on est plus du côté de la plantade que de la bonne surprise, même si ça aurait pu être bien pire. Je pense que le problème avec ça, c'est que, en tout cas personnellement, mais je crois que c'est une expérience relativement partagée, si je ne m'abuse, c'est que Pixar, dans mon inconscient et dans, je pense, l'inconscient de beaucoup de personnes, c'est vraiment un studio qui est sur un piédestal. C'est un studio que beaucoup de gens adorent. J'ai rarement vu quelqu'un dire « Moi, je déteste Pixar ». On aime tous au moins soit Ratatouille, soit Toy Story, soit Les Indestructibles. C'est un studio qui nous a profondément nourris, qui a profondément nourri nos imaginaires, qui a réussi à prendre la suite de quand même Disney, quoi, le plus gros studio de dessin animé de tous les temps, qui en plus a eu ses périodes un peu compliquées à la fin du XXe siècle. Et là, il y a Pixar et en fait, juste, ils ont eu la main mise et ont tout influencé. Il y a éventuellement DreamWorks qui est arrivé, qui leur a fait de la rivalité, mais ils restaient au sommet et ils nous surprenaient, puis nous resurprenaient. On fait des icônes cultes en très peu d'années. Je pense Buzz l'éclair, ou même Wally, Rémi, c'est tous devenus des icônes qui sont maintenant dans tous les Disneyland que tout le monde connaît. C'est comme Shrek, tu vois. DreamWorks, ils ont eu Shrek. À part ça, les animaux de Madagascar, voilà. Éventuellement, il y a eu Croque-Mou après. Mais on assiste quand même, beaucoup de personnes questionnent quand même un certain épuisement des créations Pixar, d'une part avec les créations avec les suites qui sont demandées par Disney, où en fait là, on a quand même eu la bande annonce de Toy Story 5 qui est arrivée. Ça fait quand même beaucoup. Je pense à la chanson des Muppets sur les sequels où ils disent ils vont faire Toy Story 4, c'est déjà trop, maintenant on est au 5. Il y a Vice Versa 2 qui est arrivé, il y a les Indestructibles 3 qui arrivent, et donc c'est quelque chose de profondément critiqué, mais que j'ai l'impression que le grand public est conscient que c'est plus une demande de Disney qu'une volonté de Pixar. Et on a aussi d'autres films où, en fait, leurs dernières productions n'ont pas eu le succès escompté. En fait, on a eu Vice Versa 2, qui a battu des records, je crois qu'il a fait plus d'un milliard, voilà, qui est une suite. Mais Elio, ça a été un peu la plantade.
Il avait l'air bien, pourtant. J'ai pas eu pu le rattraper, mais je pense qu'il est sur Disney+, je crois.
Pas encore, mais je pense que ça devrait pas tarder. Il y avait le passage à Disney+, ça a aussi été un passage un peu à vide, où il y a Soul, qui est l'un de mes Pixar préférés. Ça a été vraiment un highlight où je l'ai vu et je me suis dit, ça, c'est vraiment du bon Pixar. Ça arrive pas à faire des icônes comme d'autres films, comme je disais avant, comme Les Monstres de Monstres et compagnie. Le personnage ne le voit pas en faire des peluches ou inonder notre imaginaire et le mettre quelque part dans ma chambre. Mais c'était une écriture qui m'a profondément parlé, que j'ai trouvé profondément touchant, et c'est un peu pour ça qu'on va voir Pixar.
Je pense que c'est le plus philosophique et métaphysique des Pixar. Enfin, c'est le plus... Oui, philosophique et métaphysique, j'ai pas d'autre mot.
Quelque chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a l'air de beaucoup plus s'adresser aux adultes du coup qu'aux enfants.
Ouais.
L'un des aspects de Pixar que beaucoup de gens aiment, c'est que c'est des films faits pour les enfants à un certain degré, mais que les adultes peuvent tout autant aimer, ou qu'ils arrivent à cacher que c'est quand même pour les adultes, à mettre des trucs qui vont faire kiffer aux adultes également. Là, c'était un peu plus franc sur l'aspect « on va parler aux adultes, mais les enfants peuvent quand même aimer ». Mais Soul a été directement sur Disney+, parce que je croyais sortir en 2020, tout simplement.
Bah, le Covid, en fait. Si vous aviez oublié, il y a le Covid aussi. Voilà, quoi.
Lucas a été Disney+, aussi. Turning Red, Alerte Rouge en français, je crois que c'était un peu entre les deux. Donc il y a eu ce passage un peu compliqué. Et là, maintenant, il y a un vrai questionnement dans l'animation moderne de « Ah, est-ce que Pixar a encore sa place ? Est-ce que Pixar est en train de s'épuiser ?» Surtout quand en face, il y a... Bah, en fait, je vais dire ce mot. Pour moi, c'est le... avant-après du cinéma d'animation moderne, c'est Spider-Verse. Spider-Verse, ça a été un raz-de-marée. Ouais. Et là, ça a fait « Ah, c'est même pas Pixar ou DreamWorks, les Big Two, c'est Sony Pictures Animation. » On fait « Ah, ouais, ils ont fait Tempête de boulettes géantes, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ?» Il y a ça qui est arrivé, donc ça a un peu changé tout le paysage. Maintenant, je sais pas si Pixar s'épuise vraiment et fait des moins bons films, ou si c'est juste que c'est un piédestal sur lequel on les met. Et où, bah, on va pas se mentir, il y a un côté nostalgie. Moi, j'ai grandi avec Buzz l'éclair, j'ai grandi avec des DVD Pixar. Et donc maintenant, on n'a plus cette nostalgie. Et on fait « Ah, c'est moins bien !» Oui, bah, t'es plus un enfant. Ou c'est plus des icônes qui vont rentrer dans ton esprit en tant qu'enfant. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ça va influencer notre ressenti qu'on a de ces films quand on va les voir ? Est-ce que je les aime moins parce que c'est moins bien, ou parce que maintenant, je suis plus un enfant qui les voit mieux ? Moi, mon ressenti devant Hoppers slash Jumpers, je vais l'appeler deux jeux de sang, je vais osciller entre les deux sans faire attention, c'est que pour moi, c'est quand même une petite déception. C'est un film qui est sympathique. Je pense que la première question à répondre, si c'est ce que vous vous demandez, est-ce qu'on peut emmener les enfants le voir ? Est-ce que dans l'ensemble, c'est bon ? Pour moi, oui. Il n'y a pas de question. C'est un film qui peut être appréciable pour toute la famille, qui est vraiment très divertissant, qui est très drôle. La salle où j'ai été était très enthousiaste. Et il y a plein de moments qui sont vraiment très drôles. Maintenant, il ne m'a pas touché autant que d'autres Pixar. Je pense aussi que les personnages m'ont moins touché, ils sont peut-être moins remplis que dans d'autres films, en fait. Je pense j'attendais un peu plus de profondeur dans ces personnages, ou alors c'est plutôt ce qui leur manque, en fait. Ou même, il y a plein de personnes qui ont critiqué, si on peut parler un peu de l'histoire, c'est donc on va suivre Mabel, qui est une jeune activiste un peu écologique, et elle veut protéger la clairière, et truc qu'on n'a jamais vu avant, les méchants humains veulent mettre une autoroute sur la petite clairière, et donc il faut protéger l'espace vert, et elle va se mettre en tête de le protéger, et pour ça, en fait, elle va découvrir qu'une de ses profs a créé une technologie qui lui permet de mettre son esprit dans un petit castor, un robot comme ça, un peu à la Avatar, où on va se mettre à la place, comme ça, se déguiser en cet animal. Et pour vous dire, l'une des critiques que j'ai beaucoup vues, en fait, j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est vrai, on n'a pas l'impression que Mabel est tant écologique, elle n'est pas tant engagée dans l'écologie que ça, que vraiment personnellement, où en fait, on ne la voit pas vouloir protéger l'environnement en général, comme sa grand-mère lui apprend, on comprend que c'est sa grand-mère qui lui a appris le sens de la nature, mais elle veut surtout protéger sa clairière à elle, où elle a grandi et où elle a ses attaches familiales. Donc le film ne fait pas un bon travail sur apprendre aux enfants à protéger l'écologie, à protéger la nature, etc. Mais il essaye plutôt d'aborder, et ça, je vais dire, alors ça peut vous faire peur pour emmener vos enfants, mais pour moi le film, il est sur la thématique Charlie Kirk.
Attends, explique, parce que...
Parce que c'est sûr, il y a les méchants, enfin c'est sûr, pour moi la thèse du film, c'est personne ne mérite de mourir ou personne ne mérite d'être tué. Donc il y a un méchant maire qui veut défoncer la clairière, et il y a les animaux qui doivent être dégagés et tués pour pouvoir faire l'autoroute. Bah, donc du coup, elle est en mode « Ah, il faut... » La personnage va devoir trouver un équilibre entre « Ah, il faut pas tuer les animaux, parce que c'est pas gentil, mais est-ce qu'il faut pour autant mettre des bâtons dans les roues des humains ?» Tu vois, est-ce qu'ils le méritent forcément ? Et donc du coup, il y a toute cette histoire sans trop rentrer dans le scénario. Pour moi, c'est cette histoire de chaque vie vaut d'exister. En fait, les humains et les animaux doivent vivre en harmonie. Mais alors qu'il essaie de questionner les notions de bien et de mal, j'ai pas l'impression que ces personnages ont assez de profondeur pour qu'on se dise « Ah, il a quand même bon fond ». Ou en fait, les personnages qui vont être considérés comme bons sont bons intrinsèquement. Notamment George, qui est mon personnage préféré, qui est le roi des castors, et qui est juste, pour moi, sa conception du monde est le cœur du film. C'est, il met ses règles, mais il dit « Ah bah, Chaque personne a du cœur, chaque personne mérite d'être sauvée, chaque personne mérite de vivre. Parfois, certains vont devoir disparaître parce qu'il y a ce truc qui est déjà dans la bande-annonce de « Ah, il allait me manger, mais c'est pas bien, il faut que tu vives !» Bah non, il faut bien qu'il mange, ou c'est un peu la chaîne alimentaire. Et il a vraiment une vraie profondeur, là que j'aime justement chez Georges, où même il y a des mentions de périodes très sombres de sa vie qui sont abordées très subtilement et très bien. Et là, je retrouve mon Pixar. Et le reste du temps, en fait, dès qu'on a un méchant, bah, ça va être juste un méchant. Et on dit « Ah non, faut le sauver parce qu'il faut être gentil. » Et on a du mal à montrer leur côté gentil. Et en fait, pour toutes ces raisons, ça fait que c'est un film qui reste drôle, qui reste divertissant, qui est techniquement magnifique. Il y a une scène au milieu avec une arrivée de différents animaux que techniquement, j'ai trouvé fantastique. Et je pense que c'est ma séquence préférée du film, au moins en termes de technique.
C'est avec les chefs sans trop spoiler.
Oui, c'est ça. Ah, où il y a une arrivée stylé, et tout, très héroïque. Et très belle. Il y a notamment une texture de fluide que je trouve magnifique, où j'ai presque l'impression que c'est réaliste. Enfin, je n'ose pas imaginer le travail qui a été mis là derrière. Mais dans son histoire et ses personnages, j'ai du mal à autant accrocher à ce film qu'à ce que je m'attends d'un Pixar en général.
Ouais, je suis d'accord. En fait, j'étais agréablement surprise et surprise dans le sens déçue aussi. Parce que, en fait, je regarde jamais les bandes annonces de films ces temps-ci parce qu'en général, soit elles spoilent, soit ça en dit trop, enfin, des choses comme ça. Donc, je suis vraiment allée le corps ouvert à l'inconnu, comme on dit. je sais pas pourquoi j'ai passé cette phrase. mais oui, franchement, je trouvais ça super drôle. Oui, parce que le film est drôle. Franchement, le film est ironique. Il assume à fond son ironie. C'est un humour qui peut vraiment plaire autant aux adultes qu'aux enfants. Et il y a plein de types d'humour différents dedans. Et surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup charmé dans le film, bon, qui s'est un peu progressivement dissipé, mais qui m'a beaucoup charmé, c'est on ose en fait. On ose faire des vannes sur ce sujet-là. On ose explorer cette technique d'animation-là. On ose explorer cette thématique-là dans ce personnage. Et oui, il y a un truc qui m'a un peu blessé, on va dire, au fur et à mesure du film, c'est que oui, comme tu dis, il y a une envie de militantisme qui s'épuise vraiment très facilement tout au long du film. On sent qu'il y a un gros angle qui a été arrondi de façon très grossière. On sent que le film partait sur une ligne et qu'à la fin, ils ont freiné, ils ont dit « Ouais non, c'est quand même un Pixar, c'est pour les gosses, on va quand même arrondir ça, on va être gentil. » Enfin, je pense qu'il y a un élan qui a été coupé et qui a été pacifisé vers la fin, quoi.
C'est quelque chose qui est pas mal blâmé sur les Pixar de ces dernières années où, ils vont aborder des problématiques en fait, pour inclure le plus de personnes possible. Voilà, et c'est la représentation et c'est quelque chose de bien qui vont mettre en avant des problématiques modernes où là, donc, du coup, on va avoir une militante. Je me souviens que là, Elio, dans le dernier film, par exemple, c'est clairement abordé qu'il est diabétique, il a le petit détecteur comme ça sur son bras. On a aussi des personnages, des protagonistes qui sont pas forcément blancs, en fait, qui sont racisés, qui sont de différentes ethnies, et ça fait de la représentation, mais ça fait qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, avant Pixar, c'était bien, maintenant, ils sont woke », des trucs comme ça. Mais je pense juste qu'en fait, ils essayent d'aborder les choses plus frontalement, et que c'est ça leur reprocher seulement. En fait, c'est en fonction de si on considère que le monde dans lequel on est maintenant demande à devoir aborder ces problématiques frontalement. Moi, le hasard, ça c'est un hasard que je remercie allègrement, c'est que le même jour, juste avant Hoppers / Jumpers, j'ai regardé Le Géant de Fer.
Ah ouais ?
J'ai regardé Le Géant de Fer le même après-midi. Et pour moi, il parle un peu des mêmes problématiques avec la violence, avec est-ce qu'on doit y recourir, avec défense, attaque, avec les humains qui sont intrinsèquement mauvais. Et le truc, c'est que Le Géant de Fer, il va être extrêmement subtil. Alors, il va parler en fait de l'équilibre de la terreur avec la bombe atomique, mais il va le faire. Ah, il y a un documentaire quand ils sont à l'école, et il y a la direction artistique générale, mais un enfant, lui, il va beaucoup voir juste le géant, le robot, l'histoire à la E.T. comme ça. Et je trouve que Le Géant de Fer, malheureusement, fait beaucoup mieux à raconter l'histoire de Jumpers que Jumpers. Le Géant de Fer, pour moi, est profondément lié dans ces problématiques, et évidemment, c'est un chef-d'œuvre dont on se souvient encore 30 ans après, qui est passé à Anima. C'est pour ça que j'ai voulu le regarder, parce qu'il y a le reste de l'équipe qui l'a revu, et j'étais « Ah, mais j'aime bien quand même », et ça m'a donné envie de le revoir. Et donc, je pense qu'ils ont abordé les problématiques plus frontalement, il y a moins de subtilité à ce niveau-là, mais je peux bien imaginer Pixar qui se dit dans le monde dans lequel on est, surtout avec Disney qui malheureusement vire souvent vers l'extrême droite de nos derniers jours, ces dernières années, et avec les États-Unis actuels qui se disent qu'il faut aborder ces problématiques politiques de plein front pour pouvoir l'expliquer aux enfants, et que malheureusement, maintenant, la subtilité n'est plus le chemin qu'ils ont envie de suivre parce qu'ils pensent pas que c'est le bon.
Ouais. Et au niveau du casting, si ça peut vous donner envie de voir le film, je sais pas dans quelle version tu l'as vu, moi je l'ai vu en VO. Ah, toi aussi, bah voilà. Alors, en VO, il y a Piper Curda, elle me dit un truc, je crois, elle a pas joué dans les Disney Channel ou un truc.
Alors, je crois pas me souvenir d'un seul des acteurs qui sont apparus dans le film, j'ai regardé le casting en parallèle.
Mais en tout cas, pour Mabel, donc la protagoniste du film, en anglais, on avait Piper Curda qui est la double, et en français, figurez-vous que c'est Mallory Waneke. Voilà, qui était la protagoniste, enfin la version jeune de Adelaide Arkopoulos dans L'Amour Ouf récemment. Pour le roi George, en français, c'est doublé par Artus, figurez-vous.
Ah, super!
Ouais,
ah,
ouais.
Ah ouais, bah ça matche bien, en ouais. connaissant le personnage.
En fait, en VO, la voix de Jerry, donc le maire insupportable, mm-hmm. Et le mec bien blanc privilégié, voilà, on va en parler de
lui. Oui, voilà.
En fait, sa voix me disait un truc, et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, il s'agissait de John Hamm, figure-toi.
Oui, là, je viens de voir,
oui,
ouais.
Qui avait comme protagoniste de la série Mad Men, et il a aussi joué dans Baby Driver, qui est un film qu'on oublie, mais... Voilà.
Oui, mais il a fait plein de films. Hein. Enfin, oui. Il a une sacrée filmographie. Là, vous avez sûrement pas son visage en tête, mais quand vous le verrez, vous ferez « Ah, c'est lui !» Moi, par exemple, je me souviens de lui parce que, alors si je dis pas de bêtises, il apparaît dans la série Netflix des Orphelins Baudelaire, et où il fait Lemony Snicket et il fait les ouvertures d'épisodes et il parle avec sa voix grave. Bonjour, je suis Lemony Snicket, qu'à ça.
Et il est passé chez Black Mirror aussi. Enfin, il y a plein d'acteurs qui sont passés chez Black Mirror, mais vraiment, son épisode à lui était vraiment très stylé.
Je vois, il y a aussi Meryl Streep qui fait une apparition, il y a Dave Franco qui apparaît. Enfin, c'est un sacré casting.
Il y a Mel Avedia aussi qui double l'ours Hélène.
D'accord.
Et c'est tout.
Je tiens à dire, si la question veut être soulevée, Jumpers perpétue l'héritage des Michel dans les Pixar. Est-ce que tu connais la théorie des Michel dans les Pixar?
Non, mais j'ai hâte que tu l'expliques.
Dans chaque Pixar, alors peut-être pas dans chaque Pixar, mais il y a pas un running gag, mais j'imagine c'est l'équipe qui doit être relativement commune dans les VF de différents Pixar. Ils aiment bien mettre des Michel, au point où genre dans Soul, je sais même pas c'est quoi l'équivalent en VO, mais il y a tout un peuple qui s'appelle les Michel. Salut Michel. Et en fait, j'ai découvert avec le temps, j'ai entendu des gens en parler, dans plein de Pixar, dès qu'il y a un nom à donner, sauf que c'est un nom américain, et ben il dit il s'appelle Michel. Et là, par exemple, le castor un peu paresseux qu'on voit dans la bande-annonce qui manque de se faire manger et qui reste un peu pendant tout le film, je crois il s'appelle Loaf, comme une miche de pain, et sauf qu'il n'y a pas d'équivalent en français, et donc ils l'ont appelé Michel.
C'est trop drôle.
Et donc du coup, il perpétue la tradition des Michel dans les Pixar, où il suffit que ce soit juste un monstre dans le fond de Monstres et Compagnie, il fait « Ah, salut Michel !» ou des trucs comme ça. Et donc ça se perpétue et ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a cet aspect nostalgie dont je parlais avec les Pixar, où là, c'est pas comme dans la création, on se pose toutes ces questions, est-ce que c'est subtil ou pas. Là, c'est juste, je me dis, ah, cette équipe et cette tradition se perpétuent. Et donc, il y a eu... c'est juste un nom, mais moi, ça me fait un peu le doudou en mode « Ah, bah, c'est Pixar, quoi. C'est la maison. »
Au niveau de la musique du film, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que déjà, on assume à fond le militantisme parce que, en fait, évidemment, c'est un Pixar, donc on suit l'évolution dans l'enfance et dans l'adolescence de la protagoniste. Et quand elle a 19 ans, elle est vraiment affichée militantiste. Là, ils arrivent avec une chanson. J'ai sauté de joie sur ma chaise, en fait, au cinéma. Ils ont passé Rebel Girl de Bikini Kill. Si vous connaissez pas Bikini Kill, c'est un super groupe de punk grunge des années 90, ouvertement féministe. Dans les années 90, ils criaient « Oui, faites pas confiance aux hommes », etc. J'adore ce groupe, il est beaucoup trop bien. Et je trouvais ça super classe qu'ils le passent comme ça, parce que c'est un double symbologie, en fait, un double symbole. Et il y a aussi une chanson originale qui a été composée et interprétée par Cizay, figurez-vous. Et je trouve ça super stylé, comme bande-son d'un Pixar par Cizay, c'est quand même stylé. Voilà, c'était notre avis sur Jumpers. On vous encourage quand même à le voir, parce qu'en vrai, ça reste un vent frais. Ça reste un vent frais dans l'univers Pixar, je trouve.
Et j'ai juste à dire un truc qui me surprend, et j'adore avoir des réponses à ce niveau, mais je sais qu'on ne peut pas les avoir là comme ça, c'est à quel point il est assez peu distribué, en fait. Alors, au Kinépolis, là, alors on va vraiment parler à l'échelle de Bruxelles, au Kinépolis, il est distribué comme un Pixar. T'as 5 séances par jour, enfin, je crois, vice-versa, il y avait 10 séances par jour, je voyais sur les applis UGC et tout. Là, au UGC, il y a donc on a deux UGC à Bruxelles, le Toison d'Or et le De Brouckère. Je crois le De Brouckère a le passé à une séance, à 19h30 en VO, celle que je suis allé voir, et le Toison d'Or le passe une fois à 22h par jour.
Ça n'a aucun sens. Mais il y a c'est un problème de distribution. Ouais.
C'est le nouveau Pixar et il est distribué une fois par jour en VO, en soirée, comme les séances pour les adultes. On a l'impression que c'est une sortie limitée et il passe un peu dans d'autres cinémas. Je crois qu'il passait au Stockel, mais là il passait en début d'après-midi. Sinon, je serais vraiment juste allé le voir juste avant l'émission. Donc aussi, je vais peut-être y aller un peu en avance. Mais c'est, pourquoi ? Est-ce que c'est une histoire de copie ? Est-ce que c'est juste qu'ils pensent que ça marche pas ?
Est-ce que c'est la flemme de la part du GC ou parce que c'est une paresse de distribution, de baissage de bras de la part de Pixar, on ne saura jamais, mais il y a un problème légal.
Est-ce que ça coûte trop cher ? Est-ce peut-être, que les différentes audiences... enfin, j'ai pas le fait que le nouveau, sans dire de gros, le nouveau fichu Pixar, ils ont une séance par jour après 19h en VO. Et alors oui, bah, du coup, ma séance était presque pleine que d'adultes qui étaient très enthousiastes et qui criaient dans la salle. C'était rigolo, c'était sympa, même s'il y avait des gens qui criaient un peu trop, je trouve. Mais c'est bien, le cinéma est une expérience collective.
Tout à fait.
Mais... what? Quel est le fuc?
Mais tout à fait. Mais en tout cas, je rebondis sur mes pas. Si vous voulez voir Jumper, si vous l'avez déjà vu et que vous aimez, vous aimez l'expérience que vous venez de voir, figurez-vous que le film est réalisé par Daniel Chung, pour qui ce n'est pas une première de réaliser de l'animation, mettant en vedette des animaux, car il est également l'animateur d'une série d'animation appelée Ours pour un et un pour tours.
Ou We Berbers, tu connais pas?
Ouais.
Oui, Berber, c'est super. C'est une histoire de trois ours. T'as déjà regardé ou pas ?
Non, en fait, je me suis renseignée, mais je ne l'ai pas encore regardé, mais ça a l'air très joli.
C'était une série Cartoon Network avec trois ours. T'as un ours brun, un ours blanc et un panda. Et ils ont des petites aventures. Un peu à la Cartoon Network, ça va, je pense, un peu dans le ton d'Adventure Time, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, il y a l'ours blanc, il est presque muet, où il parle de manière très grave et tout. Et ils ont un peu chacun la personnalité. Ils ont des petites aventures. Enfin, oui, Berber, c'est vraiment du bon. Ils ont un générique où ils sont les trois. Les uns sur les autres, ils traversent la forêt.
Ah, ça me dit un truc, je crois.
C'est super mignon.
Ouais. Mais en tout cas, prochainement pour Pixar, on l'a dit, cette année, on aura droit à Toy Story 5. On aura Gato en 2027 qui parlerait d'un chat noir à Venise, de ce que j'ai compris.
Ok.
Il y a Indestructible 3 en 2028. On m'a dit que pour l'instant, c'était pas très sûr.
Le film va avoir lieu, c'est certain.
Quoi.
Mais oui. Non, il va avoir lieu, ils l'ont annoncé tout dans leur grosse conférence, à part grosse catastrophe. Et c'est un peu triste de voir que Brad Bird sera plus à la barre. Tout se recoupe, réalisateur en plus du Géant de Fer qui nous avait régalé avec les deux premiers. Mais je crois que le 2 a pas assez marché pour eux, alors qu'il a bien marché de ce que je me souviens. Et ils partent sur un nouveau réalisateur, donc ça fait un peu. C'est plus son bébé, quoi, donc c'est un peu triste.
Ouais. Et un truc qui me rend très triste aussi, c'est qu'en 2029, on va avoir droit, je me demande vraiment pourquoi, j'en écris pourquoi dans la rue, on va avoir droit à un Coco 2.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que la mort est éternelle.
C'est la morale de Pixar, voilà. Sur ces mots, on va marquer une petite pause musicale. Donc, M.I. de Gary Numan, que j'ai découvert il y a vraiment cette semaine. Je trouve que c'est un son banger. Et en fait, je pensais que c'était un son récent, parce que l'instru fait très intemporel, très punk intemporel. Mais figurez-vous que l'album date des années fin 70-80. Et ça match très bien avec la bande originale du film dont nous allons parler après la pause, à savoir Marty Supreme de Josh Safdie, qui ne fait pas partie de la bande originale du film, mais je trouve que ça matche très bien avec la bande-annonce originale du film dont nous parlerons juste après. À tout de suite.
We'll be right back.
De retour sur Scope, aujourd'hui on parle de deux films actuellement en salle. Nous venons d'aborder le dernier Pixar, Jumpers. Et à présent, on va changer radicalement d'ambiance et peut-être aussi de public parce qu'on va parler de Marty Supreme réalisé par Josh Safdie. Tiens, Safdie, ce nom vous paraît familier, ce n'est pas qu'une coïncidence. Les frères Lumière, les frères Cohen, les frères Dardenne, les sœurs Wachowski, mais aussi les frères Safdie. Si vous n'avez jamais entendu parler d'eux, pas d'inquiétude parce qu'à Scope, on aime bien les débats, se forger des nouvelles watchlists, parfois les fun facts, mais surtout installer un certain contexte quand on parle d'un film, voire même de réalisateur. Et ici, le contexte est plus que de mise. On tenait à faire un petit trigger warning parce qu'il se trouve que est affilié au nom Safdie une certaine polémique quant au tournage de leur premier film qui a eu vraiment du succès, à savoir Good Time en 2017. Et j'ai totalement transparente avec vous. Cette polémique, je n'y ai eu écho que juste avant l'émission. Je vais par la suite exposer mon avis sincère sur Marty Supreme, qui est un film que j'avais vraiment aimé, vous dire que maintenant j'ai un certain recul par rapport à cette problématique. Et je vais laisser Martin en parler parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer le trigger warning?
Oui, j'ai essayé de me renseigner là-dessus, mais pour essayer de donner les détails, les infos les plus justes possibles et éviter de dire des bêtises. Mais les frères Safdie, donc il y a Josh et Benny. Il y a Josh Safdie qui a fait Marty Supreme, qui est le film dont on va parler. Il y a Benny Safdie qui est réalisateur aussi, donc ils ont réalisé ensemble plusieurs films. Et maintenant, ils ne travaillent plus ensemble. Et donc, Benny a notamment fait The Smashing Machine, un film sorti il y a quelques mois avec The Rock, un biopic qui était très cool et qui n'a justement même pas été nominé aux Oscars, ce que je trouve un peu dommage. Mais s'ils ont arrêté de travailler ensemble, ça a été assez flou depuis les dernières années. On sait qu'ils se sont séparés un peu autour de 2022-2023. Et un article est sorti notamment à Page Six Hollywood, qui a été relié et tout. Moi, je l'ai notamment découvert parce que c'était relié par Vanity Fair, qui a expliqué pourquoi ils ont arrêté de travailler ensemble. C'est parce qu'il y a eu une découverte sur le plateau du film Good Time, qui est le premier long métrage vraiment gros qui leur a apporté en fait le succès. C'était juste avant Uncut Gems, qui a été un succès encore plus gros. Et en fait, il a été découvert que... une comédienne avait été engagée pour jouer une travailleuse du sexe et qu'il se trouve que cette comédienne était mineure de 17 ans. Et en plus de ça, en fait, c'était une séquence où elle allait jouer avec un autre acteur du film qui s'appelle... Buddy Duress, j'ai noté. Oui, Buddy Duress, qui fait le personnage de Roy, qui est le... Si vous avez vu le film, c'est celui avec la gueule toute cabossée, là. Et en fait, il se trouve même que l'acteur en lui-même, en fait, a été vraiment récidiviste en termes de drogue et d'usage d'armes et était sorti de prison. Et il était, je pense, pas entièrement sobre sur le plateau. Et en fait, il a même... C'était une séquence intime avec cette actrice qui, il se trouve, était mineure et où il s'est en fait exposé à elle et ça a été un trauma pour elle. Et il se trouve que c'est Josh qui dirigeait cette séquence et il affirme qu'il n'a pas... Il ne savait pas que cette comédienne était mineure au moment du tournage, mais au-delà de ça, c'est lui qui gérait la prise et il n'a même pas demandé à couper la prise alors que l'acteur s'est exposé alors que c'était pas dans le script, quoi. Et apparemment, Benny, lui, il était seulement à la perche et il a appris des années plus tard que l'actrice était mineure et que apparemment donc du coup Josh était au courant et de ça a fait des problèmes entre eux, c'est une sacrée polémique et donc du coup ça a fait une séparation entre les deux. Et ça, c'est notamment des infos qu'on a eues à l'occasion de la nomination aux Oscars de Marty Supreme, qui alors il n'a pas fait le record de Sinners, mais il avait quand même été en plus salué ce film-là par Josh, qui est donc du coup, on va dire, entre gros guillemets, gros plus ou moins entre guillemets le méchant Safdie, et Benny lui qui donc du coup essaye par son intégrité de se désolidariser de ça. Lui, il a fait son film avec The Rock, il est même pas nominé, donc voilà, c'est plein de polémiques, plein de problématiques. Victoria, elle ne savait pas ces problématiques lorsqu'elle allait voir le film, et pour ma part, moi j'en avais entendu parler, donc là je me suis mieux renseigné à ce propos là mais c'est aussi pour ça que je vais surtout axer mon propos en comparaison avec l'autre film Smashing Machine, où j'ai eu du mal à voir le film Marty Supreme pour ce qu'il est et que je l'ai vraiment mis en relation avec l'autre, du coup, avec le frère, qu'est-ce que ça a changé, et que j'ai du mal à vraiment voir Marty Supreme en mode à dire « Ah, c'est un gros succès, c'est super », etc. Mm-hmm. Donc voilà, on tenait à vous faire cette mise en contexte vis-à-vis des polémiques, plutôt que la dropper à la fin ou complètement l'ignorer, ça aurait pas été correct.
Voilà, on tenait à vous faire ce petit trigger warning. Si ça ne vous a pas complètement rebuté, moi j'avais envie de vous faire une petite... notre version de la fiche Wikipédia de comment ils sont venus à avoir un tel succès et à peser dans le game des films indépendants états-uniens des années 2010. Voilà. Benny et Joshua Safdie sont des réalisateurs de films indépendants états-uniens qui commencèrent à peser dans le game dans les années 2010 avec des films comme Good Time en 2017 et Uncut Gems en 2019. Mais en plus d'être des réalisateurs, figurez-vous qu'ils sont aussi scénaristes, producteurs, monteurs, directeurs de la photographie et aussi acteurs. Parce que Benny a joué dans Good Time, il jouait le petit frère, et dans Oppenheimer récemment de Christopher Nolan.
Et il double Bowser Jr. dans Super Mario Galaxy.
Exactement. Voilà.
Quand je l'ai vu, je croyais que c'était une blague, et en fait non. Et maintenant, on a appris que même Donald Glover fait Yoshi, donc rien ne va plus.
Rien que ça. Ils naissent et grandissent dans une famille de confession juive. Comme ça, on dirait que c'est un détail un peu random, mais ça occupe mine de rien un certain rôle dans leur filmographie, et notamment dans Uncut Gems et Marty Supreme. Ils fondent ensuite, avec des amis de fac, un collectif de films qui s'appelle les Red Bucket Films. Donc, c'est une société de production de films indépendants qui permet de financer et de publier les courts-métrages de leurs membres. Et si vous voulez, il y a leurs courts-métrages sur le site internet. Donc, je répète, le Red Bucket Films. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, Josh réalisa son premier long métrage qui s'appelle The Pleasure of Being Robbed. J'ai pas noté là. Oh oui, en 2008, pardon, qui eut quand même le droit de passer à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2008. Et il fut distribué en France. Puis ensuite, en commun, ils réalisèrent un premier long métrage qui s'appela Lenny and the Kids, qui passa lui aussi à la quinzaine en 2009. Et l'inspi, c'est l'histoire de leur enfance et la relation d'un père divorcé avec leurs deux enfants, enfin ses deux enfants. Puis en 2014, ils réalisèrent Mad Love in New York, donc inspiré de la vie d'Ariel Holmes, qui jouera son propre rôle, à savoir le rôle d'une femme sans domicile fixe et addict à l'héroïne dans un hiver new-yorkais, qui eut droit à la sélection à la Mostra de Venise, quand même, ce qui n'est pas rien. Puis en 2017, vint le premier film, à savoir Good Time, mais aussi, surtout, le premier film avec une star de renommée mondiale, parce que quand même, le premier rôle est joué par Robert Pattinson.
Et ça va devenir un motif dans presque chacun de leurs films, où alors qu'ils adorent caster des gens, en fait, faire du casting sauvage avec des gens qui sont pas spécialement acteurs, qui vont avoir différents rôles, la tête d'affiche va souvent être un acteur hollywoodien extrêmement connu, et qui va être un peu utilisé à contre-emploi, ou en tout cas avoir une sorte de méthode à la Chao Pantin, où on va un peu déconstruire ce qu'on imagine de lui. Là, il y avait Timothée Chalamet a été utilisé, alors qu'il est le beau visage d'Hollywood dans ce moment, pour faire un peu un sale gosse. Il y a Adam Sandler, qui est un acteur normalement comique, un peu potache, bah, là, qui fait un acteur vraiment dramatique dans Uncut Gems. Et on a Robert Pattinson, qui avait été à l'époque surtout, il avait pas encore été Batman, là, à l'époque, il avait été surtout le vampire tout propre de Twilight. Bah, là, il fait un peu ce mec paumé, un peu tout crade des rues de New York.
Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé Good Time, malgré la polémique, évidemment. Moi, je trouve que ça reste un bon premier film en tant que duo. Enfin, c'est quand même très prometteur vu tout ce qui se passe. Et déjà, juste avec un film, ça instaure déjà leur patte artistique et leur volonté à chaque fois de dépeindre, le schéma de Icar, à savoir des personnages qui ont un but en tête et qui voient trop grand. Et après, bah, le karma s'en charge, quoi. Bah, voilà.
Des Good Time, il y a leur méthode où en fait c'est des films où moi j'ai un peu fait à rebours, j'ai vu Uncut Gems à la sortie, puis là j'ai vu Marty Supreme, et donc avant, un peu avant Smashing Machine, et là plus récemment Good Time. C'est un peu ce même schéma de c'est des films sur la précipitation et sur la galère,
c'est
vraiment
éreintant.
un cinéma de la course, c'est très éreintant, et ça va être un personnage qui veut voir gros, qui a des galères d'argent, qui va faire des promesses à tout va, et c'est des personnages profondément imparfaits, et en fait tout est déjà là dans Good Time, au point où les films qui arrivent après ont l'air d'être presque des remixes de ça, mais je reviendrai là-dessus.
Oui, c'est vrai. Ensuite, figurez-vous que c'est qui avait fait ça ? Ils réalisent aussi à deux le clip Marcy Me de Jay-Z en 2017. Voilà, le saviez-vous. toujours les fun facts dans Swap. Et en 2019, il y a Uncut Gems, et à ce jour, c'est mon film préféré d'eux, je pense. Ça reste inabattable, je trouve, qui est un film ouvertement de Netflix, et en plus produit par Tonton Scorsese, ce qui n'est pas rien.
Et qui est tout en haut dans les remerciements du générique de Good Time.
Ouais. Qui est vraiment très bien. Ça fait partie des films à prouver que Adam Sandler n'est pas qu'un acteur de comédie. Si vous en êtes persuadé, évidemment, je vous conseille Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, qui est excellent. Uncut Gems, c'est un film qui est un petit peu connu ces temps-ci, quand même. C'est un peu devenu un film culte des années 2010.
C'est pas un blockbuster, mais il s'est fait beaucoup connaître comme l'un des meilleurs films sur Netflix. C'est vraiment tout le monde en mode « Ah, oh, t'as vu ? Ah, oh, c'est super ! En plus, c'est sur Netflix ! Oh là là, c'est génial !» Et en fait, je pense que ça a surtout cimenté la réputation des Safdie, qui s'était fait un peu connaître par Good Time. Et là, Uncut Gems, c'est la consécration. Et c'est là que les frères Safdie sont devenus les frères Safdie.
Tout à fait. Et donc, c'est un film que j'aime beaucoup. Et j'aimerais beaucoup m'épancher longtemps dessus. Mais il se trouve que notre cher ami Maxence avait déjà fait une chronique là-dessus à l'occasion de notre émission spéciale films originaux Netflix, que je vous encourage à réécouter. Mais oui, en tout cas, si vous aimez les personnages, encore une fois, qui voient grand, qui ont envie d'atteindre un certain but, sauf qu'il ne leur arrive que des galères, foncez dessus parce que ça reste un super film. Et il ne s'était pas distribué par A24 aussi.
Si, si, James, c'est un film à 24.
Aussi. Ouais. Évidemment, en 2024 survint la séparation du duo, et puis donc les deux frères vont se splitter. D'un côté, on a Benny qui va faire Smashing Machine en 2025. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, c'est un film que j'ai pu voir à sa sortie là, il y a quelques mois, il était sorti cet automne, qui est un biopic, un peu comme Marty Supreme sur quelqu'un qui a vraiment existé, avec The Rock dans le rôle d'un pro wrestler, un lutteur, un catcheur, pas un catcheur mais plus un lutteur, où c'est vraiment le sport de la castagne, et qui a plein de soucis, notamment avec sa femme, avec la violence, et avec lui-même sa propre bonhomie, où c'est un personnage qu'on comprend qui est imparfait, qui souffre beaucoup, et qui a des problèmes avec sa masculinité, parce que c'est quelqu'un dont le travail, c'est de casser des trucs, la Smashing Machine, mais c'est un personnage qui a profondément du cœur, et donc c'est un usage intéressant de The Rock, où justement ça va être cet acteur de film d'action, de blockbuster, qui va être utilisé ici dans un rôle dramatique. Et c'est un film aussi que je trouvais très intéressant par sa forme, qui reprend beaucoup à la télévision. C'est un thème qu'on voyait déjà là dans Good Time, la télévision qui est assez prédominante. Et là, ça va être filmé un peu comme ces documentaires MTV, un peu caméra à l'épaule, où on peut se dire « Ah, c'est comme The Office ». Sauf qu'en fait, la télé va être aussi vraiment centrale dans ce film. Et je trouve que c'est un exercice de forme beaucoup plus intéressant que reprendre la formule de Good Time qui a été reprise pour Uncut Gems et ensuite pour Marty Supreme. Même si je trouve... Marty Supreme, si je peux déjà un peu donner mon avis, Marty Supreme, c'est un film qui se regarde, qui est dans la veine des deux autres et qui fonctionne. Mais même si Smashing Machine, je trouve, emporte moins, à moins cette tension, à moins cette aventure, cette course effrénée pendant 2 heures, il m'intéresse plus parce qu'il tente des choses différentes, en fait. Et je trouve l'écriture du personnage est plus sincère et plus intéressante. Et je crois que j'ai plus aimé apprendre à connaître le personnage de The Rock dans Smashing Machine que le personnage de Chalamet dans Marty Supreme.
Je n'ai pas vu Smashing Machine, moi j'ai juste vu Marty Supreme, je vous avoue. Marty Supreme, comme je vous l'ai dit, encore une fois, je l'ai vu avant de savoir la fameuse polémique. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, malheureusement, du coup. Je vous encouragerais même à aller le voir, parce que je trouve que ça reste quand même un film à voir, ça reste un film marquant de cette année, je pense. Évidemment, à prendre avec un certain recul, vu le contexte. Moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que le personnage de Marty Supreme est super intéressant, qui est inspiré d'un pongiste états-unien qui a vraiment existé, qui s'appelait Marty Reisman. Je sais pas s'il a une vie autant de fou que le personnage principal, mais oui, c'est un personnage très intéressant, Marty, je trouve, parce que, c'est un gamin présomptueux qui voit trop grand et qui utilise tout le monde, et ouais, ça arrive à une fin horrible. Enfin,
c'est profondément pas, égoïste, oui, c'est ça. Non, et en fait, la fin.
Sa définition d'égocentrisme, le mec a sa photo d'Ico, en fait. Tu peux pas aller plus loin dans l'égocentrisme et il utilise tout le monde par tous les moyens possibles. Moi, on m'a beaucoup fait le reproche par rapport au film de dire qu'il y avait peut-être trop de scènes de sexe dedans. Alors, c'est vrai, mais. Moi, je trouve ça un peu justifié dans le sens où le fait de prendre littéralement possession du corps des femmes, ça reste un outil pour lui pour arriver à une certaine ascension. Ça reste l'un des moyens de trucage, de marchandage pour arriver au sommet. Et est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il n'y arrivera pas? On vous laisse peut-être vous faire votre avis et voir le film.
Quoi. Et finalement, qu'est-ce que le sommet? Parce qu'on a l'impression qu'il veut tous les sommets en même temps.
Ouais, c'est Icar, en fait. Voilà. Mais c'est tout leur
personnage.
Le
tout leur personnage. C'est déjà dans Good Time, Robert Pattinson qui court partout, qui veut à la fois l'argent, à la fois son frère, le beurre, l'argent du beurre, voilà, Uncut James s'est poussé encore plus loin, même Marty Supreme, en fait, cette course, je crois, va encore plus être pousser encore plus loin, mm-hmm. et où ça va se faire en détriment d'autres gens, au point où, évidemment, sans spoil, la fin, je n'arrive pas à savoir si c'est une happy end ou pas. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont hors champ, qui pour moi sont pas résolues, mais pour moi, ça fait partie de la thèse du film que, bah, du coup, c'est une fin bonne, mais douce amère, mais bonne.
Dire, pour moi, c'est pas une bonne fin. Mais après, c'est mon avis, c'est une fin semi-ouverte. Quoi. On s'en lit pas plus, mais.
Mais ça rentre dans ces films où, en fait, il faut comprendre qu'on suit un personnage qui n'est pas là pour être sympathique. On ne regarde pas Marty Supreme pour adorer Marty.
Oui.
Marty
non.
Le personnage est hypnotisant. Le personnage est vraiment très intéressant. Mais c'est comme regarder un American Psycho où le personnage, oui, est captivant par sa bêtise et son aspect machiavélique et maléfique. Mm-hmm. Marty Supreme est un personnage profondément, pas juste imparfait, non, mauvais. C'est une mauvaise personne qui va causer la chute et la perte de bien des personnes si ça peut lui permettre de monter plus haut. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, en fait. C'est ça, c'est l'intérêt. On va être avec Timothée Chalamet pendant 2 heures. Je crois pas qu'il y ait une seule séquence où on n'est pas dans son point de vue, on n'est pas avec lui.
Ouais,
si, il y a un moment avec autour d'une cabine téléphonique. Voilà. Il y a ça.
Et en parlant de tête d'affiche, il y a aussi un chanteur que j'aime beaucoup qui joue dedans. Il y a quand même Tyler, le créateur, qui joue dans un film, les gars. Donc,
qui apparaît.
Oui, c'est dingue. Mais enfin, il joue son ami pongiste aussi. Donc pongiste, c'est le métier de ping-pong pour ceux qui ne savaient pas. Mais donc en tout cas, c'était notre avis sur Marty Supreme. Libre à vous de le voir ou de ne pas le voir en sachant cette problématique.
Je tenais à dire si je peux refaire un parallèle. Surtout avec Good Time, j'ai vu que donc Josh était scénariste et réalisateur sur Good Time et Benny était réalisateur et monteur. Et là, dans les films, vu que je suis vraiment sur une comparaison entre les deux, je vois Marty Supreme que c'est une histoire dans le même style, ou comme je dis, c'est une formule qui est reprise, mais dans Smashing Machine, bah, du coup, le scénario est différent, et je vois la forme aussi, une expérimentation de la forme qui est intéressante, où cette exploitation des images de la télé, quand on a des plans à l'hélicoptère dans Good Time qui reprennent les poursuites comme ça filmées à la télé, notamment celle d'O.J. Simpson, pour moi j'ai l'impression de voir Benny qu'on va retrouver dans Smashing Machine. Donc si vous aimez les histoires des frères Safdie ou ces personnages qui sont torturés, qui courent, qui doivent courir, qui demandent de l'argent, qui ont toujours pas assez d'argent, on leur propose un peu d'argent mais ils ont besoin de plus, donc est-ce qu'ils prennent le risque, ils négocient, vous allez trouver ça dans Marty Supreme et pas dans Smashing Machine. Mais si vous aimiez l'introspection des personnages, essayer de trouver le cœur en eux de la même manière que dans Good Time, il y a cette petite séquence où Robert Pattinson, il est poursuivi par les flics et il doit sortir son frère de l'hôpital, mais alors qu'il est dans une chambre, il y a une grand-mère qui demande de l'aider et il lui nourrit un peu de yaourt. Comme ça, ce cœur qu'il y a pour les personnages, je l'ai plus retrouvé dans Smashing Machine et l'originalité qu'il y a dans ce film, je l'ai trouvé plus intéressante que Marty Supreme qui marche par son divertissement et sa tension, mais que je crois avoir préféré Marty Supreme en termes d'expérience spectateur, mais je n'aurais pas de mal à considérer que Smashing Machine est un meilleur film, ou en tout cas un film plus intéressant.
Ok, bah je vais le voir à l'occasion parce que j'ai pas eu le temps de le rattraper. Voilà, c'était notre avis sur les deux films. Maintenant, il est l'heure de la minute cinéphage en extrémiste parce que le temps passe trop vite, on n'a pas eu l'heure passée.
Oui, nouvelle séance du cinéphage, demain, le jeudi, comme tous les jeudis, à 18h30 au H1 301. Et cette semaine, c'est le film de Sixteen qui nous passe La Chiméra de Alice Rohrwacher avec Josh O'Connor de The Mastermind, le BG aussi de Challenger et de plein d'autres films, qui va ici faire pas un cambrioleur de musée, mais quand même un voleur d'art qui va piller des tombes. Alors c'est pas Lara Croft, c'est pas Indiana Jones, mais avec des amis, on comprend, il est à moitié en cavale, il va revenir un peu dans le village d'où il vient, où il va être un peu connu, il va y avoir un peu une histoire d'amour, mais son travail c'est en gros trouver des tombes, piller des tombes. On se dit, ah, est-ce qu'il a un peu un super pouvoir pour trouver des tombes et trouver de l'art à l'intérieur des vieilles statues romaines, vu que ça se passe en Italie, et les revendre, et il va se poser des questions sur en fait, la valeur de l'art, où il en a besoin pour survivre, pour avoir de l'argent et pouvoir manger, mais en même temps il se dit que est-ce que ses œuvres qu'il aime profondément n'ont pas plus de valeur en tant que pas touché et qui reste dans des tombes pour les morts, et il sait que bah, piller des tombes c'est pas bien, donc il va être un peu en prise avec ce dilemme dans un film vraiment passionnant, magnifique, avec des images magnifiques, c'est en Italie, c'est super, les décors sont magnifiques, ça parle italien, c'est une très belle langue et les personnages sont très intéressants, et Josh O'Connor, on l'adore. Venez voir le joli minois de Josh O'Connor torturé par sa prise sur l'art demain à 18h30 au H1 301 à l'ULB. La séance est gratuite.
Tout à fait. Merci de nous avoir écoutés. On espère que nos points de vue sur les films vous auront diverti ou vous auront donné envie de voir les deux films. Je vais y arriver. Donc n'oubliez pas encore une fois la séance cinéphage demain. Et encore une fois, pour les gens férus de festival de films un peu zarbi, il y a le off-screen qui commence aujourd'hui jusqu'au 29 mars. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.
À la semaine prochaine. Salut. Making up for wasted time. You criticize the things you once admired.
laisse.